Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravili Lemel. Ravili Lemel, bonsoir, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, alors on va faire une petite exception ce soir. Bon, c'est vrai qu'on réfléchit avec vous chaque semaine sur la paracha, mais vous voulez intervenir sur la fête de Pourim, parce que hier c'était le jeûne et la fête c'est dimanche. Alors qu'est-ce que vous voulez nous faire partager sur cette très belle fête ?
Alors écoutez, sur cette très belle fête, il y a tellement de choses à dire, et j'aimerais aussi un petit peu faire une petite promenade à travers la paracha, parce que je pense qu'on va pouvoir un petit peu essayer de créer un lien. Au fond, toute l'histoire de Pourim, elle est passionnante, mais si on l'observe d'un tout petit peu plus près, au fond, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire ? Parce que vous savez que c'est une idée d'ailleurs que le Rav Dessler développe très longuement. Il explique que chaque fête juive, d'ailleurs on les appelle des moadim. Moed, c'est un moment de rendez-vous, c'est un rendez-vous avec un moment qui est là pour nous ramener à une réflexion sur un concept, sur une idée. Et chaque fête est là pour nous faire approfondir encore plus l'idée qu'elle véhicule. Ce n'est pas juste un souvenir historique comme certains pourraient l'imaginer. Et donc, lorsqu'on arrive à Pourim, qu'est-ce que cette fête est en train de nous dire? Et surtout, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Alors, il y a deux axes. Le premier axe, vous savez que la fête de Pourim, c'est dans le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est le dernier mois de l'année juive, parce que rappelons-nous que Rosh Hashanah, c'est le début de ce que j'appellerais, entre guillemets, l'année civile juive, mais l'année religieuse juive, si on pourrait s'exprimer ainsi, eh bien, commence le mois de Nissan, c'est-à-dire Pessah. La Torah, en effet, nous dit « Hachodesh Hazelachem », le premier mois de l'année juive, c'est le mois de Nissan. Donc, Nissan étant Pessah, Pâques, eh bien, vous avez toute l'année qui se déroule. Et puis, le dernier mois, c'est Pourim, c'est Hadar. Donc, c'est un peu la conclusion. Et alors, on sait qu'à Pourim, on a un certain nombre de mitzvot, de commandements, entre autres, de faire la lecture de la Megillah, c'est-à-dire de nous remémorer toute cette histoire du sauvetage du peuple d'Israël, des griffes et de la tentative, j'ai envie de dire, la première tentative de génocide de l'histoire avec Haman et Achashverosh. On a l'obligation de donner aux pauvres, et ce qui est normal, on ne peut pas être joyeux si on ne donne pas aux autres la possibilité d'être aussi. Il y a aussi ces fameuses Mishloach Manot, c'est-à-dire ces cadeaux de nourriture qu'on s'offre les uns aux autres. On a envie de dire, c'est cette notion d'unité, de convivialité. Et puis, il y a ce fameux festin, le michté. Alors, le michté, le festin, ok, c'est un moment extraordinaire, mais nos maîtres nous disent, dans ce festin, chaya venish le basoumé. On a l'obligation de se parfumer, alors pas avec du Dior et du Chanel, non, de se parfumer, c'est-à-dire de boire un petit peu plus que de coutume, jusqu'au moment où on ne serait plus capable de distinguer vraiment, au fond, dans cette histoire, qu'est-ce qui était mieux ? Est-ce que c'était mieux que Haman disparaisse ou que Mordechai prenne sa place ? Enfin, on dit, voilà, c'est très curieux parce qu'on est dans la conclusion de l'année juive, et puis on nous dit, ça se conclut par quoi ? Alors, par un festin, c'est génial, non, mais dans ce festin-là, on va un peu boire un petit peu plus que de coutume. Et c'est quelque chose qu'on est en train peut-être de nous dire ici, alors c'est peut-être déjà le premier élément sur lequel je voudrais réfléchir. Au fond, lorsque quelqu'un boit, il n'est plus totalement dans la maîtrise de lui-même. Comme on nous dit, quand le vin rentre, le secret sort. Et c'est peut-être intéressant, justement, ce dernier mois de l'année, de voir, mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler ? Et l'année qui vient de s'écouler, cette année juive, c'est un moment dans lequel on nous a demandé, à travers les différents rendez-vous, ces différentes fêtes, de réfléchir à certaines choses. À Pessah, on nous a demandé de nous reposer la question de la liberté. Est-ce que nous sommes vraiment libres ? Est-ce que nous avons fait le choix de ce à quoi nous allons nous soumettre ? Ou est-ce que nous sommes soumis à nos désirs, à nos pulsions, au regard des autres, à la pression familiale, que sais-je ? Ou est-ce qu'on a fait le choix de se soumettre à la volonté divine ? On repense cette question de la liberté à Shavuot, qui est la fête qui suit. Eh bien, Shavuot, c'est la fête qui célèbre la Torah. Et la Torah, au fond, c'est notre référence. Et on se réinterroge sur la place que l'on donne à notre référence dans notre histoire personnelle. Est-ce que notre vie tourne autour de cette référence? C'est-à-dire, est-ce qu'on interroge cette référence? Et ce, dans tous les domaines de l'existence, pas juste dans le fait religieux, mais dans tous les domaines de la vie. Et puis après, on avance dans l'année juive. On arrive à Rosh Hashanah, cette fameuse tête de l'année, ce nouvel an. Rosh Hashanah, dont on sait que c'est la fête du projet, c'est le moment dans lequel on demande au Créateur de l'univers de nous donner de quoi vivre, d'être en bonne santé, enfin, tout ce dont on a besoin. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu nous interroge au fond et nous dit, avec plaisir, mais dis-moi juste à quoi tu veux l'utiliser. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel on réfléchit sur la manière dont on va utiliser ce que Dieu met à notre disposition. Puis après, on a Kippour. Kippour, c'est le moment dans lequel on se débarrasse des scories du passé, pour que le poids du passé ne nous empêche pas de construire un futur. Donc on réfléchit comment travailler sur nos culpabilités, comment travailler sur le pardon, celui qu'on va demander et celui qu'on va accorder. Sukkot, c'est la fête de l'unité avec ces quatre espèces qui symbolisent les différences et les... J'ai pas envie de dire les différents juifs, mais enfin, les différents styles d'individus qui constituent le peuple d'Israël, mais qui se retrouvent ensemble à travers ce fameux bouquet des quatre espèces qui les symbolisent. C'est la pénétration dans la soukha, cette soukha qui est cette hutte, cette cabane un peu fragile, au moment dans lequel on réfléchit eh bien, sur la place qu'occupe l'avoir dans notre existence, puisqu'au fond, on sort un petit peu des certitudes que nous donne ce que l'on possède, et puis on va à l'extérieur. Et puis après, on a cette fameuse fête de Hanouka. On s'interroge sur la capacité de faire brûler ces petites lumières qu'elles illuminent le monde dans la noirceur de la nuit, c'est-à-dire est-ce qu'au fond on est conscient qu'on a quelque chose à apporter au monde et qu'un peu de lumière peut repousser beaucoup d'obscurité. Vous voyez, il y a comme ça toute une progression. Yapourim, justement, on arrive. Yapourim, c'est justement ce moment dans lequel on va réfléchir sur eh bien, notre positionnement par rapport aux nations du monde, puisqu'au fond c'était ça le problème de Pourim. Rappelons-nous que Haman, qui veut nous détruire, son argument c'est que c'est quoi ce peuple qui est dispersé parmi tous les peuples et qui malgré tout assume et vit pleinement son identité, qui la vit sans rejeter les autres, mais en étant ce qu'il doit être, en cherchant peut-être à se dire, mais au fond, soyons source d'inspiration pour les univers que nous rencontrons. Et à ce moment-là, eh bien, justement, on aboutit à ce festin et on va boire. Parce que quand on va boire, eh bien, on va exprimer au fond ce qui nous agite. J'ai envie de dire que c'est une prise de risque. Parce que c'est le moment dans lequel on va peut-être découvrir la réalité qui nous habite. Et c'est intéressant de se dire, voilà, à la fin de l'année juive, à Pourim, eh bien, ce qui va être important pour nous, c'est de savoir sur quoi on a travaillé toute l'année, de s'interroger sur cela et se dire, mais au fond, ça ne me dérange pas de boire un tout petit peu plus que d'habitude, même si je ne suis pas totalement dans la maîtrise de moi-même, parce que je sais qu'au fond, ce qui va ressortir, ce sont des choses qui sont belles, qui sont l'expression de nos mouvements intérieurs, qui sont l'expression de nos désirs de grandeur. Voilà, ça c'est déjà cette première dimension. Et puis il y en a une autre, et qui en tout cas, je pense aujourd'hui, fait beaucoup plus écho à la situation dans laquelle nous sommes. Vous savez que toute l'histoire de Pourim, c'est quoi ? C'est le monde de l'illogisme. Le peuple d'Israël, au début de l'histoire de Pourim, est convoqué à ce fameux festin cachère et va y participer alors que celui qui représente la Torah, Mordechai Mardoché, dit il ne faut pas y aller. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que non seulement il va y avoir des choses déviantes qui vont s'y passer, mais en plus, eh bien, il sait qu'Assuérus, Achashverosh, le roi, va s'exhiber dans les habits du grand prêtre, il va étaler les richesses du temple, forme de conquérant souverain. Et c'est très bien qu'à ce moment-là, les Juifs qui seront là-bas seront coincés, parce que s'ils s'opposent, eh bien, ils s'opposent au roi, et s'ils se taisent, ils valident au fond que l'histoire du peuple d'Israël est terminée, qu'il n'y aura plus de temple. Et donc, il ne faut pas y aller. Mais ils y vont quand même, parce que, allez, stratégie politique, logiquement parlant, il faut quand même y aller. Et au fond, on se rend compte qu'il ne fallait pas être à l'écoute de cette logique, mais il fallait être à l'écoute de cette parole des Chachamim, de nos maîtres, dont on dit qu'ils voient au-delà même du prophète. Et donc, il y a toute cette histoire qui avance, toute cette histoire qui se met en place. Et puis, eh bien, à la fin, cette fameuse intervention de Esther. Esther, qui est donc la favorite du roi, qui va réussir à inviter le roi et Aman, et qui, le soir du festin, alors que c'était un immense danger de tenter de l'inviter, parce que, comme elle le dit, ça fait déjà 30 jours que le roi ne m'a pas vu, je ne sais pas comment il va réagir. Il est là, de bonne composition, très heureux, très content d'être là, et il dit à Esther, ma chère, que puis-je te donner jusqu'à la moitié de mon royaume ? On aurait dit, ça y est, il y a une fenêtre de tir incroyable, il faut en profiter, implore pour ton peuple. Esther ne demande pas cela. Esther dit, peux-tu revenir demain ? Elle prend un risque immense. Parce que si le roi ne revient pas le lendemain, qu'est-ce qu'elle fera ? Mais qu'est-ce qu'elle fait, Esther, ici ? Esther est en train de dire, on doit se désinscrire de la logique. À un moment, si le peuple d'Israël pense que parce qu'Esther fait partie du palais, alors on a des gens dans la place et c'est bon, ça marche. Alors ils vont oublier que derrière tout cela, il faut se rappeler qu'il y a le créateur de l'univers. Évidemment qu'il faut agir stratégiquement, mais il y a des moments dans lesquels il faut se dire, mais est-ce qu'on est conscient que derrière tout cela, il y a le créateur de l'univers ? Vous savez, la seule mitzvah, le seul commandement sur lequel la Torah insiste très lourdement, c'est l'obligation de faire attention à sa santé. Venishmartem mod le nafshoterem. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit, mais tu dois agir comme on doit agir normalement. Mais rappelle-toi que derrière ça, il y a le Créateur. Or, le peuple d'Israël était en train de l'oublier. Il s'inscrivait dans une démarche politique, logique. Esther dit, eh bien non. Il faut bien comprendre que si vous pensez que ce n'est que la politique et la logique, l'histoire n'avancera pas. Et c'est à ce moment-là où le peuple d'Israël, voyant que ses espoirs dans la reine disparaissent, qu'il se tourne vers le Créateur de l'univers, et c'est à ce moment-là où tout change. Et voilà le rapport aussi peut-être avec justement le livre de Vayikra, dans lequel on est en train d'arriver maintenant. Vayikra, c'est le livre dans lequel on va nous parler de bon nombre de lois qui pour certaines sont incompréhensibles ou très difficiles à appréhender. Et ces lois en hébreu s'appellent des chukim, des statuts, c'est-à-dire des lois qu'on ne va pas nécessairement comprendre. Or, il y a un texte qui nous dit « Im bechukotai telechu » « Si vous allez dans mes lois, à ce moment-là, la délivrance arrive, toutes les bénédictions. Ça veut dire quoi, marcher dans les lois ? Moi, je pensais qu'il fallait dire on les respecte. Et là, et je vais conclure là-dessus, regardez, le premier mot, im, si, est constitué de deux lettres, aleph et mem. Dans l'histoire, trois grands moments, la sortie d'Égypte. Second grand moment, c'est pour im le moment où on pensait être exterminé, on délivré. Troisième moment, l'avenue du Messie. Regardez ces deux lettres. Et qui sont les protagonistes qui nous sauvent ? Eh bien, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est Aaron et Moshe. Aaron, première lettre, Aleph. Moshe, première lettre, Mem, Im. Dans l'histoire de Pourim, c'est Esther, Aleph, Mordechai, Mem. À l'époque du Messie, c'est Eliaou, le prophète Élie. Première lettre du prophète Élie, Aleph. Et puis le Mashiach, Mem. Et on a ici donc quelque chose qui est une forme de clin d'œil incroyable que le texte nous dit. Il nous dit « im »,« si », c'est-à-dire cet univers dans lequel vous allez être sauvé, qui va passer à travers ces fameux deux personnages, Aaron, Moshe, im, Esther, Mordechai, im, Eliaou, Mashiach, im, ça n'ira que si « bochokotai telerou », vous êtes prêt à avancer dans l'existence en sachant qu'il y a quelque chose qui ne sera pas toujours dans la rationalité absolue dans votre histoire, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, et c'est en étant capable d'inscrire cela à l'intérieur de nous-mêmes que nous allons avancer dans l'histoire de manière logique, de manière rationnelle, parce que c'est ce que Dieu attend de nous, mais il attend surtout que derrière cela, nous soyons conscients qu'au fond, ces mouvements que nous opérons ne sont que le masque du monde, ne sont qu'un masque et que nous devons voir derrière la présence du Créateur. Voilà ici quelques idées en tout cas pour cette fête qui est quand même assez incroyable et qui a tellement de choses à nous dire.
Rav Eli Lemel, on va souhaiter avec vous un revirement complet avec le retour des otages, des soldats, de tous les déplacés n'ont pas encore retrouvé leur maison dans le nord, par exemple, d'Israël. Et je vous souhaite de bonnes fêtes et Shabbat Shalom, Rav Eli Lemel.
Shabbat Shalom.
Et on retrouve à présent Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Et oui, mon cher Bernard, Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, à toutes et à tous.
Alors, Rav Mordechai, vous, cette semaine, vous voulez faire le lien entre notre paracha, Pourim, et bien, alors, tout ensemble, bien évidemment, Amalek, y compris, c'est pour ça que je dis tout ensemble, y compris en essayant de voir quel éclairage sur l'actualité.
Effectivement, le Shabbat que nous allons vivre est un des Shabbatot les plus importants de l'année. Il y en a comme ça toute une série, et celui-là, c'est le Shabbat Zachor. On va lire donc le texte dans lequel la Torah nous enjoint de nous souvenir, de ne pas oublier ce qu'Amalek nous a fait. Amalek, c'est le peuple qui nous attaque à la sortie d'Égypte et qui vient nous détruire physiquement, mais surtout, c'est un peuple qui va faire cette tentative, mais qui sait pertinemment qu'il n'a aucune chance de gagner. Et son but est simplement de montrer, alors que le peuple juif est au fait, en quelque sorte, de sa gloire, une fois que l'empire égyptien, l'empire concentrationnaire égyptien, a été mis par terre par les 10 plaies d'Égypte et par l'épisode de la mer Rouge, il était complètement anéanti. Donc tout le monde craint le Dieu d'Israël, tout le monde admire ce peuple qui est en train de se former, qui émerge sur la chaîne de l'histoire. Et l'objet d'Amalek, c'est d'abord de tenter que ce peuple n'est pas si fort que ça et qu'on peut l'attaquer. Et que, entre guillemets, ce Dieu, Chas v'Shalom, n'est pas si fort que ça et qu'on peut l'attaquer. Et l'idée, elle est très simple. L'idée, elle n'est pas forcément de gagner la bataille, elle est simplement de montrer que ce peuple n'est pas si fort. On peut l'attaquer, on peut l'affaiblir. Et donc freiner, en quelque sorte, un élan spirituel d'adhésion au projet que représente le peuple juif, qui est d'amener dans le monde à la fois la Torah qu'Hachem a donnée, mais en même temps la civilisation qui va avec, qu'on appelle la sainteté de la Torah. C'est quoi cette civilisation, finalement, de la sainteté de la Torah? C'est cette capacité à conjuguer le corps et l'esprit, le matériel et le spirituel, dans l'harmonie. C'est le projet de la Torah. On l'a expliqué déjà à maintes reprises. Shabbat, on mange, on se réjouit, on est festif, on a des rapports conjugaux dans ce que la Torah permet. Et en même temps, on étudie la Torah, et en même temps, on est dans un jour de spiritualité intense. C'est ainsi qu'il en va pour toutes les fêtes du peuple juif, c'est ce qu'il en va également pour Pourim. Chaque fête, par exemple, est partagée en deux. Il y a une partie qui est consacrée à la tfila, à la prière et à l'étude, et une autre qui est consacrée à festoyer, ce qu'on appelle dans le langage de nos sages, chetzol Hashem, chetzol Lachem. Une partie est consacrée à Hashem, en priant, en étudiant, une autre partie est consacrée à chacun d'entre nous qui va manger et qui va se réjouir. Yom Kippourim, c'est un jour qui est entièrement spirituel, on jeûne et on prie. Quel est son pendant matériel en quelque sorte? Pourim. Pourim, le jour où on va manger, et en fait, Pourim, on va atteindre le même niveau qu'à Yom Kippour, mais à Yom Kippour, on l'a atteint dans la crainte, dans la contrition, dans la tchouva, dans le repentir, et là, on va l'atteindre dans la joie, dans la fête, dans la festivité. Et donc voilà, il y a un projet ici, qui est un projet tout à fait fondamental, c'est le projet de l'équilibre et de l'harmonie entre toutes les forces de l'individu, chose qu'aucune religion qui a été issue du judaïsme, qu'il s'agisse de l'islam ou de la chrétienté, n'a réussi à atteindre, et évidemment que le monde occidental, dans sa forme actuelle, où il retourne au panthéisme, n'est pas capable d'atteindre. Parce que c'est un monde qui se vautre dans le matérialisme, dans l'absurde, et finalement, d'une certaine manière, dans une conception complètement dévoyée du plaisir et du bonheur. Là où la Torah propose de l'équilibre, du travail sur soi, un élan spirituel très fort, et en même temps une pratique sur le plan matériel qui est clair et net, c'est une civilisation finalement, ce que la Torah nous propose. Eh bien Amalek, c'est le peuple qui, sur le plan spirituel, c'est la force spirituelle qui vient dénigrer tout cela. On nous dit donc que les gens d'Amalek prenaient le prépuce de ces juifs qui étaient expulsés des nuées de gloire, parce qu'ils n'avaient pas le niveau pour y rester, et ils coupaient le prépuce et ils disaient à Dieu, c'est ça que tu as pris pour faire reposer ta sainteté. Mais la Brit Mila que la Torah demande de faire, c'est le symbole de cette recherche de l'harmonie entre les forces les plus puissantes de la jouissance physique, psychique, et en même temps la recherche de la spiritualité. Dans le domaine de tout ce qu'on appelle en français la sexualité, qu'on appelle en hébreu la kedusha, la sainteté, ce qui est demandé aux juifs, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie entre des forces et des pulsions qui sont très puissantes, et en même temps la sublimation de ce désir pour des buts constructifs, pour des buts d'épanouissement du couple et d'épanouissement personnel. Et donc il y a ici tout un appareillage en quelque sorte de lois, de conceptions, une philosophie en quelque sorte qui nous appelle à l'équilibre et à l'harmonie. Et c'est tout à fait fondamental parce que c'est le nœud de l'affrontement avec Amalek qui lui veut tout tourner en dérision, qui lui veut proclamer que rien n'a de valeur et que finalement chacun fait ce qu'il veut. La spiritualité c'est en haut, il reconnaît qu'il y a une spiritualité, mais en bas on fait ce qu'on veut. En bas on tue, on viole, on fait ce qu'on veut, on assassine. Et surtout, en bas, on hait le peuple juif et on peut le haïr à en mourir. On va l'attaquer pas toujours pour gagner. On va l'attaquer pour montrer qu'on peut l'affaiblir. On va l'attaquer, on va le détester à en mourir. Elle a quelque chose qui est tout à fait lié à notre actualité. Les cannibales nazi-islamistes qui sont rentrés en Israël le 7 octobre, le jour de Simchat Torah. Ce sont des gens qui ne sont pas rentrés pour conquérir Israël. Quand on veut conquérir un pays, on vient avec des tanks et des avions. Quand on vient avec des mobylettes et des voitures et des RPG et des mitrailleuses, qu'est-ce qu'on veut ? On veut tuer. Et ces gens-là, d'une certaine manière, ils ont en eux ce que nos sages appellent la Bechina d'Amalek, c'est-à-dire cette caractéristique amalécite. C'est détester le juif à en mourir. L'idéologie du Hamas, c'est une idéologie amalécite. C'est-à-dire, c'est l'idéologie qui proclame l'extermination du juif, c'est marqué dans leur charte, il faut exterminer les juifs, et partout dans le monde. En Israël, bien sûr, parce qu'ils sont en Dar al-Islam, sur la terre de l'islam, qui doit rester islamique, et où ils ne peuvent pas supporter l'existence d'une entité politique non musulmane, mais dans le monde entier. Les juifs sont des infidèles, il faut les détruire. Et donc, ils vont attaquer, mais ils vont attaquer en sachant très bien qu'ils vont mourir. Ils vont tuer, mais ils savent très bien qu'ils seront tués. C'est détester le juif à en mourir. Et elle a quelque chose qui est profondément amalécite. Et c'est très intéressant parce que dans ses prophéties, Bilam nous dit que Amalek, c'est un principe premier dans les nations du monde. C'est-à-dire qu'on peut détester le juif à en mourir. Lorsque les nazis, à la fin de la guerre, savent qu'ils vont perdre, ils s'acharnent à prendre des trains pour déporter des juifs, notamment la communauté juive hongroise, alors que l'état-major allemand demande des trains pour envoyer des soldats sur le front. Non, le plus important, c'est de tuer les juifs. C'est la caractéristique amalécite. C'est-à-dire faire en sorte que le juif disparaisse. C'est ça qui est important. Et donc, dans cette actualité, on voit ce fait-là se poser. Et ça doit nous interroger parce que, finalement, vous voyez, une des raisons qui a activé les accusations de génocide contre Israël, c'est que, tout simplement, les accusateurs sud-africains l'ont dit, ils ont dit, mais ils parlent du Hamas en disant que c'est Amalek. Or Amalek, il faut les détruire. Non, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand on se souvient de ce que nous a fait Amalek, c'est qu'on se souvient de ce que veulent nous faire des gens qui veulent nous anéantir. Et donc, en quelque sorte, pourquoi on doit se défendre ? Au nom de quoi on doit se défendre ? On doit se défendre d'abord physiquement, mais on doit se défendre aussi spirituellement. Qu'est-ce qui justifie la présence des Juifs en Eretz Israël ? Qu'est-ce qui justifie la présence du Juif dans le monde ? Qu'est-ce qui justifie la l'ontologie du Juif, cet être même du Juif ? Qu'est-ce qui justifie ? C'est la Torah. Le peuple juif est né il y a 3335 ans au pied d'une montagne où il a reçu la Torah. À Yom Yetaleam. Ce jour-là, vous êtes devenu un peuple. C'est la définition du juif en tant que peuple, au niveau collectif, mais également au niveau individuel. C'est son lien avec Hachem. La Torah, c'est le lien avec Hachem. Hachem nous a délivré un bout de sa pensée, en quelque sorte, pour nous permettre de comprendre comment lui, Yitbarach Shemo, que son nom soit béni, pense le monde. Et il nous invite à penser le monde à l'intérieur de sa pensée, de visiter le monde, l'histoire, au travers de sa pensée. Et donc la seule légitimité du juif, c'est son lien avec Hachem au travers de la Torah. Et encore plus quand il est en Eretz Israël. Car la parasha de Bechukotai, qui se trouve à la fin du livre de Vaïkra, là, cette Shabbat, on va lire aussi parasha de Vaïkra, c'est la première parasha donc, du livre du Lévitique de... Eh bien, à la fin, Brocotte nous dit que si on s'applique à étudier la Torah en Eretz Israël, on aura le shalom. Mais sinon, non. Et la Torah nous met en garde. Elle nous dit, c'est ça, le nœud de la relation avec Hachem, en particulier avec Eretz Israël. Il y a un point aussi qui est très important, c'est qu'il faut savoir que l'histoire de Pourim démarre sur la volonté d'empêcher la construction du Beth Amikdash, où on faisait des sacrifices. Et la paracha que nous lisons aujourd'hui est la paracha qui introduit toute la législation sur les sacrifices. Et là aussi, il y a quelque chose de fondamental, parce que dans le temple, dans le Beth Amikdash, ce qui se joue, c'est la capacité du juif à dominer l'esprit animal et à le soumettre, en quelque sorte, à l'intégrer dans un dispositif qui est celui du service d'Hachem, et arriver à rassembler l'ensemble des forces de la création pour le service d'Hachem. C'est ce qui se passait à l'intérieur du Mishkan, du tabernacle dans les serres, c'est ce qui se passait dans le Beth Amikdash, et c'est ce que Haman avec ses fils veulent empêcher de faire lorsqu'ils sont à Jérusalem et qu'ils empêchent, ils envoient des lettres à Suérus pour empêcher la reconstruction du Beth Amikdash. Là aussi, c'est un fait qui doit nous faire réfléchir. Au fond, finalement, cette haine d'Israël, c'est toujours finalement la haine de ce que représente Israël. Cette capacité à rassembler toutes les forces de la création pour le service d'Hachem, cette capacité, comme j'ai dit au début de mon propos, à prêcher l'harmonie. Ce qu'on demande, nous, c'est l'harmonie entre toutes les korotes. À réfléchir pour ce Shabbat Zachor, on se souhaite à tous et à tous Shabbat Shalom, pour Ibsamer, bien entendu, et qu'on mérite la délivrance, de voir le retour des otages, enfin, et l'anéantissement du Hamas, l'appareil militaire et politique du Hamas, que cet appareil soit anéanti, que le peuple juif vive et survive et qu'il développe. Amen.
Rav Mordechai Biton, merci. Et Shabbat Shalom.
Nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir.
Rav Gay, alors vous aussi, vous voulez intervenir sur Pourim, avec la problématique de Amalek, qu'on n'a jamais vraiment très bien compris finalement. Et puis, faire un lien avec l'actualité, puisque tout le monde y pense. Donc, on vous écoute.
Tout à fait. Alors, j'ai quand même réfléchi à un Rashi que tout le monde peut-être connaît, je ne sais pas si tout le monde le connaît, je vais le rappeler. Vous savez que la paracha d'Amalek se trouve à la fin de Kitetsé, dans le livre de Devarim. Il y a trois derniers versets, Zachor et Asher Salcha Amalek, tout le monde connaît ces quelques mots, et ça se trouve à la fin de paracha de Kitetsé. Et Rashi se pose la question, mais évidemment c'est pas seulement Rashi, c'est déjà bien avant lui, de la juxtaposition d'une halakha qui est écrite juste avant. C'est sûrement pas par hasard que la mitzvah de faire la guerre à Amalek est écrite juste après la mitzvah des poids et mesures. Je vous rappelle la règle, il est interdit même de posséder, d'avoir chez soi un poids, une mesure qui est faussée. Donc à l'époque, ça se faisait avec des poids en plomb que l'on pouvait falsifier de différentes façons, peu importe la façon dont c'était fait. Mais en tout cas, l'idée, c'est la suivante. Donc, on a quelqu'un qui vous pèse exactement, a priori, officiellement, exactement le kilo de pommes de terre que vous achetez. Et en fait, il a totalement abîmé son poids et, évidemment, il vous escroque. Et cette halakha-là est écrite juste avant Amalek. On peut se dire que c'est le fait du hasard. Eh bien, Rachid dit non, tout simplement non. Il y a un lien de cause à effet. Si vous avez des poids et des mesures qui sont falsifiés, eh bien, vous aurez Amalek qui va vous attaquer. Alors, on peut se demander vraiment quel est le lien qu'il y a entre ces deux sujets qui, a priori, n'ont aucun rapport. Et je pensais que l'explication se trouve dans les événements que nous vivons aujourd'hui, où des personnes bien pensantes nous font des leçons de morale, donc parce qu'ils veulent évidemment défendre le peuple palestinien, et se présentent comme étant les défendeurs du droit, de l'humanisme, etc. Et en fait, on sait très bien que derrière ces défenses incroyablement, on va dire, virulentes face à Israël, sous le couvert de la défense des Palestiniens, se cache en fait un antisémitisme profond, puisque ces mêmes personnes ne sont pas aussi motivées à défendre toutes les minorités du monde, mais surtout les Palestiniens, parce qu'évidemment, il s'agit d'attaquer Israël. On le sait tous, on en a parlé, j'imagine, cette antenne de très nombreuses fois. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le lien avec ce Rashi que je viens de citer. Qu'est-ce que en fait veut dire Rashi? Qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek, c'est le fils d'Esav, le petit-fils d'Esav, et il a la même nature de son grand-père. On le compare au porc, parce que le porc, vous le savez, il n'est pas cachère. Il n'est pas cachère alors qu'en fait, il a un siman, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a deux éléments nécessaires et indispensables pour qu'un animal soit cachère à la consommation. Il s'agit de savoir s'il a des sabots fondus et s'il rumine. Il se trouve que le porc, il a les sabots fondus et il ne rumine pas. C'est pour ça qu'il n'est pas cachère, parce qu'il ne rumine pas, mais il a les sabots fondus. Et on nous dit que dans le Midrash, souvent le porc montre ses sabots fondus, il montre ses sabots pour montrer genre je suis cachère, mais en fait, derrière, il ne l'est pas. Et ce que veut dire la traduction de cela en un terme plus moderne, c'est que tout simplement, c'est quelqu'un qui parle au nom de la justice, qui se présente comme quelqu'un de très bien, qui défend le droit, mais en fait, derrière, il est tout à fait un ennemi, un haineux, un homme haineux et qui ne respecte absolument pas les préceptes qu'il enseigne aux autres. Et donc, il joue un jeu, c'est une comédie. Et il faut comprendre que ça, c'est Amalek qui vient lorsque nous aussi, dans notre relation aux autres, on joue le même jeu. On fait semblant de calculer exactement le kilo de pommes de terre avec un poids pour valoriser l'intervention. Je vole pas, et en fait, ce poids, c'est un mensonge. Il est tout simplement faussé, abîmé, et on a l'impression, on trompe notre acheteur, tout en utilisant ce qui permet en général justement de donner la mesure. Donc on utilise quelque chose dont la destination c'est être honnête et être juste, pour faire justement le contraire, tromper en utilisant ces outils qui servent justement à respecter le droit. C'est très intéressant, c'est dans fait falsifier ce qui est normalement destiné à défendre le droit, pour en fait en faire le contraire. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on est face à des accusations terribles du monde entier, l'État d'Israël, les Juifs en général, l'antisémitisme, etc. Et en fait, tout cela sous le couvert d'une défense des droits de l'homme, et, etc. Alors, ce que je voudrais ici, c'est de dire que finalement, à Purim, on se déguise, c'est un usage très ancien de se déguiser, et quelque part il faut comprendre que c'est aussi un problème qui on le retrouve dans l'histoire de Purim, ce problème de comédie, de faux-semblants, puisque finalement, lorsque Mordechai ne se prosterne pas devant Haman, on sait qu'à aucun moment il a accepté de se prosterner, ça a excité, ça a créé donc une colère chez Haman, une colère noire, et il veut donc détruire, il veut tuer Mordechai, mais il veut aussi tuer tout le peuple de Mordechai, et les gens pouvaient le taxer Mordechai de fanatisme, puisque en fait c'est sa fanatisme et son... alors que d'après la halakha, il n'est pas absolument interdit de se prosterner devant Haman, eh bien Mordechai fait un acte fanatique, et finalement c'est ça qui va entraîner, en tout cas les accusateurs, les médisants pourraient dire, mais effectivement c'est Mordechai qui est la responsable de tout ça. En fait, Mordechai, il a des informations, comme nous l'explique Rabbi Shimon Bar Yochai, que le décret a une origine. Cette origine, c'est le fait que les Juifs ont participé au banquet offert par Assuérus, Ahasuéroch, à Shushan. Donc les Juifs de Shushan sont particulièrement menacés parce qu'ils ont profité d'un repas où, je vous le rappelle, dans ce repas, c'était en fait fêté quoi ? Pas fêté l'intronisation de Ahasuéroch. Non, c'était fêté la fin de la prophétie des 70 ans des prophètes qui disaient qu'après 70 ans, un nouveau sanctuaire, un nouveau Beth Amikdash allait être construit. Et lorsque, d'après ses calculs, Ahasuéroch se découvre que les 70 ans sont passés, selon son calcul, et que rien n'a été reconstruit, il se dit, voilà, les Juifs seront définitivement en exil, c'est fini, c'est l'assimilation, ils ne retrouveront jamais leur État, leur indépendance, et surtout leur judaïsme, et donc ils doivent s'assimiler. Et donc, participer à ce repas, même s'il est tout à fait cachère, c'est tout simplement se réjouir de quelque chose qu'il est absolument interdit de se réjouir. Nous, chaque juif doit aspirer à la reconstruction du temple et à la rédemption, et absolument pas s'installer dans un confort, même s'il est un peu spirituel, un confort dans le monde dans lequel nous sommes. Nous devons aspirer à le retour de la Shekhina, de la présence divine, sur le monde du temple, et la réinstallation du troisième temple. On sait tous que c'est notre objectif, mais on peut éventuellement l'oublier. Les Juifs qui se délectent de ce repas, de ce banquet, en faisant cet acte, dit Mordechai, ils montrent qu'il se détourne de Dieu, qu'il n'aspire plus à la rédemption, au retour en Israël, et donc de ce point de vue-là, ils sont très fautifs, d'autant plus que dans ce repas, Assuérus va utiliser des ustensiles du Beth Amikdash, du sanctuaire, il va mettre les habits du Kohen Gadol, et donc il va bien montrer qu'il est aujourd'hui le vrai patron, qu'il n'y a aucun risque que le Beth Amikdash soit reconstruit. Donc cette attitude-là des Juifs qui participent à ce repas, et le fait de s'être prosterné à une statue de Nabucodonosor, ces deux raisons sont à l'origine du décret, qui est en fait un décret divin, qui est signé dans le ciel, et donc Mordechai, c'est véritablement ce qui se passe. Et le mérite des Juifs, donc, c'est d'avoir écouté Mordechai, alors que les apparences ne montrent pas du tout ce que dit Mordechai. Les apparences montrent un homme, Haman, qui est un ennemi des Juifs, et qui, dont la colère est vraiment excité, donc il se met en colère à cause de l'attitude de Mordechai, qui est un fanatique. Donc ça, c'est la lecture première. Et les Juifs ont quand même le mérite d'écouter Mordechai et de voir ce qui se passe derrière, de voir la véritable raison des choses, et ne pas se laisser berner par une apparence trompeuse. Et ça, c'est une constante à Pourim, justement, de retrouver le véritable visage des choses, et de démystifier Amalek, de démystifier les antisémites qui, soi-disant, défendent une cause, mais en fait c'est l'antisémitisme qui les anime, démystifier Mordechai qui a l'air d'être à l'origine de ce décret, mais en fait qui ne l'est pas, il est au contraire celui qui va amener l'annulation du décret, et donc comprendre que jeûner pendant 3 jours, comme l'a décrété Esther, c'était la meilleure façon d'effacer les restes du repas qu'on avait mangé à Shushan à l'occasion de ce banquet dont je viens de parler, qui a eu lieu, je vais quand même le préciser, 9 ans avant les événements de la Megillah. Donc on aurait très bien pu penser qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Et c'est Mordechai qui dit tout cela et il nous dit ne vous fiez pas aux apparences, écoutez bien ce que je vais vous dire, voilà ce qui se passe vraiment dans ce monde. Et je pense que c'est ça la force de Pourim, c'est de faire tomber les masques, c'est-à-dire de découvrir ce qui est un peu derrière ce voile qui nous cache la vérité sur ce qui se passe vraiment dans le monde. C'est quoi les vrais enjeux, c'est quoi les vrais buts d'un homme sur terre, d'un juif sur terre. Et tout cela grâce à la Kedusha, la sainteté de ce moment, à la force de Mordechai et Esther, à la prière qui a été écoutée, à ce peuple juif qui s'est réveillé, ben nous aussi, nous espérons être libérés et débarrassés très bientôt de tous les terroristes en herbe et qui se préparent et toujours et encore à nous attaquer, et ce fondamentalisme islamiste ou peu importe lequel qui veut nous attaquer. Et c'est grâce à justement ce sursaut spirituel et cette unité du peuple juif, puisqu'ils sont tous réunis et ils ont tous accepté la décret de Mordechai et Esther. Je veux quand même rappeler que c'était à Pessah hein, que le jeûne a eu lieu, c'est pas autour de Pourim. Le jeûne, c'est 3 jours qui inclut les premiers jours de Pessah. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé la matzah. Et il faut quand même accepter un décret pareil. Un rabbin qui vous dit ne mange pas la matzah, ne mange pas le maror. C'est-à-dire fait de Pessah un jour de jeûne. Ils ont accepté, ils ont écouté. Et cette acceptation, cette écoute, c'est tout simplement d'écouter la vérité qui n'est pas évidente de prime abord. Cette capacité de voir derrière, c'est un peu un des secrets de Pourim qui nous permet aussi de voir ce qu'il y a derrière tout ce qui se passe autour de nous et de se dire que finalement peut-être un jour on comprendra que tous les événements que nous vivons en ce moment qui sont très durs, eh bien tout simplement ce sont des événements qui nous amèneront très bientôt à la venue du Mashiach et ils se retransformeront ces événements tristes et terribles en des événements qui seront de nature à accélérer la venue de la rédemption finale et du Mashiach et notre retour en Israël avec le Beth Amikdash reconstruit.
Amen, amen. Et le retour des otages ?
Le retour des otages, évidemment, très rapidement, la guérison de tous les blessés, malheureusement ils sont nombreux, et évidemment qu'on retrouve la joie et le bonheur dans ce pays qui le mérite tant, mais tout simplement, voilà, que ce soit qu'une parenthèse terrible, mais qu'elle soit vite fermée, on espère, sans autre sacrifice.
Rav Gueh, je vous remercie, je vous souhaite Shabbat Shalom et une bonne fête de Pourim, Chag Sameach.
Shabbat Shalom et Pourim Sameach.
Pourim Sameach. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Et c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom et Pourim Sameach.
Shalom leboy na boy, im Hashem lo yishmarigi, shal shokat shoy be. Tzoch emune am segula, tzoch emune am segula, tzoch emune am segula.